Est-ce que vous reconnaissez cette image ? Comment ? Des jardins suspendus. C'est une des sept merveilles du monde antique, donc les jardins suspendus de Babylone. Alors, c'est sûrement pas une photo contemporaine. On imagine qu'ils étaient un petit peu comme ça. Et ces jardins suspendus de Babylone étaient dans un pays dont nous entendons parler assez beaucoup en ce moment, c'est l'Irak. Et j'ai choisi cette image parce que on va lire un passage dans le livre de Daniel qui se situe en Babylonie et donc en Irak, et aussi parce que ça va bien avec la question que nous allons nous poser ce matin: où va notre monde? Où va notre monde? Toutes les chaînes de télé parlent de l'Irak, parlent de ce qui se passe là-bas, de l'État islamique qu'on a rebaptisé Daesh, qui sévit là-bas, de la guerre qui est menée. Le monde va mal, le monde va mal. Des journalistes se font décapiter, des chrétiens se font violer, décapiter, tuer, vendus comme esclaves. Où va notre monde ? Les médias nous parlent aussi du déclin de la France, du déclin économique, du déclin politique de la France. Sarkozy revient tel un sauveur, tel un De Gaulle, tel un Napoléon, pour essayer de sauver notre pays. Va-t-il y arriver ? Où va notre monde ? Où va notre pays ? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui en lisant le chapitre 2 de Daniel. Donc je vous invite à lire ce chapitre 2 de Daniel qui nous parle justement de l'histoire. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les devins et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit « J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Les astrologues dirent au roi en langue araméenne « Que le roi vive éternellement. Raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit aux astrologues « Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me le révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons et de grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. » Ils dirent pour la seconde fois au roi « Que sa majesté raconte le rêve à ses serviteurs et nous lui en donnerons l'interprétation. » Le roi rétorqua « Je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. C'est pourquoi, dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. » Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent « Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Aussi, jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux. Mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. » Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages, de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Je fais tout de suite une petite pause. On a ce début de récit qui nous raconte un peu l'intrigue. Il faut que les sages racontent le rêve de Nabucodonosor. Et à la fin de cette introduction, on s'aperçoit que Daniel est parmi les sages. Et que donc Daniel est lui aussi condamné à mort. Il faut que je vous précise que Daniel est un Israélite, quelqu'un qui est de la tribu, enfin qui est du royaume de Juda. Il a été déporté en 605 par Nabucodonosor, qui n'a pas détruit Jérusalem, mais qui a juste déporté une partie des élites du royaume. Et dans ces élites, vraiment de la grande aristocratie judéenne, il y avait Daniel. Et Daniel a été éduqué, a été formé pour faire partie de l'élite de l'empire babylonien. Et donc, on s'aperçoit là que Daniel fait partie des sages de Babylone, et que donc, puisque les sages n'ont pas réussi à deviner le rêve de Nabucodonosor, eh ben, les sages sont condamnés, Daniel y compris. Alors, est-ce que Daniel va être condamné? C'est là l'intrigue. Verset 14. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioc, le chef des bourreaux du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioc, l'officier du roi, « Pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence ?» Alors Arioc lui exposa l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai, en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il entra chez lui et informa ses compagnons, qui avaient été déportés avec lui, Anania, Michaël et Azaria, de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que, dans sa grâce, il leur révèle ce secret, afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua le Dieu des cieux. Il dit « Loué soit Dieu, dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. » Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. » Après cela, Daniel alla trouver Arioc, que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone, et il lui dit « Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Introduis-moi en présence du roi, et je lui révélerai l'interprétation de son rêve. » Alors Arioc s'empressa d'introduire Daniel auprès du roi et dit à celui-ci « J'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera à sa majesté l'interprétation de son rêve. » Le roi s'adressa à Daniel, surnommé Belshazzar, et lui demanda « Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai eu et de m'en donner l'interprétation ?» Daniel s'adressa au roi et lui dit « Le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun enchanteur n'est capable de le lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Et il a fait savoir au roi Nabucodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Pendant que tu étais couché au roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Alors celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. Quant à moi, ce n'est pas parce que je posséderai une sagesse supérieure à celle de tous les autres hommes que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur. Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Du même coup, furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air durant la moisson. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'exposer au roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux en quelques lieux qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi surgira un autre empire, moins puissant que le tien, puis un troisième, représenté par le bronze, qui dominera toute la terre. Un quatrième royaume lui succédera, il sera dur comme le fer. Comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces, ainsi il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé. Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé à la de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine et son interprétation est authentique. Alors le roi Nabucodonosor se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Puis il lui déclara « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux. Le souverain des rois est celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. » Le roi éleva Daniel à une haute position et lui donna de nombreux et riches présents. Il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et il institua chef suprême de tous les sages de Babylone. À la demande de Daniel, le roi confia l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel lui-même demeura à la cour du roi. Fin de ce texte assez court. Vous inquiétez pas, le reste sera un petit peu moins long. Passage assez long, mais un passage narratif avec une intrigue, des rebondissements, un épilogue plutôt heureux, un passage que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être déjà lu, un passage qui veut nous instruire de quelques vérités finalement assez simples, qui peuvent nous être très utiles aujourd'hui. La première chose que nous allons voir, c'est le renversement qui s'opère dans ce passage. Il y a quelque chose d'assez simple là-dedans. La première chose, c'est que on a affaire au maître du monde dans ce passage, et le maître du monde n'est pas celui que l'on croit. Le maître du monde n'est pas celui que l'on croit. Nous avons un roi qui s'appelle le roi des rois, Nabucodonosor. Il règne sur le monde connu, il règne sur le bassin méditerranéen, sur la plupart des royaumes connus alors. Sa civilisation, la civilisation babylonienne, a renversé le royaume précédent, l'empire assyrien, et tout le monde pense que c'est l'empire dominant, la civilisation qu'il faut imiter, la civilisation à la mode. Tout le monde à l'époque pense que voilà, ce royaume va durer très très longtemps. Ce sont les Babyloniens qui dominent le monde. Mais on s'aperçoit avec cette histoire de Daniel que cette civilisation si forte, avec un grand nombre de sages, un grand nombre de mages, de magiciens, cette civilisation finalement un petit peu occulte, qui a l'air de dominer le monde, n'est pas capable de révéler à Nabucodonosor la teneur de son rêve. Nabucodonosor commençait un petit peu à se douter que les mages le truandaient un petit peu, et que quand il leur demandait une interprétation, ils avaient tendance à lui dire ce qu'il avait envie d'entendre, à le caresser dans le sens du poil. Du coup, il leur tend un piège en leur disant « Bah, déjà, je vous raconte pas mon rêve, devinez mon rêve, histoire de voir quand même ce que vous avez dans le ventre. » Et là, il s'aperçoit que les mages n'ont rien dans le ventre. Donc, on voit que cette civilisation qui domine le monde n'arrive quand même pas à révéler ce qui se passe dans la tête de l'empereur. Et il faut juste savoir que, normalement, le dieu des Babyloniens, qui s'appelle Marduk, puisque les Babyloniens dominent, leur dieu est le dieu supérieur à tous les autres dieux. Et normalement, les mages de Babylone devraient être en communication avec les dieux babyloniens, donc devraient sûrement pouvoir interpréter et deviner le rêve. Mais les sages reconnaissent leur faiblesse en disant « Il n'y a personne au monde qui peut deviner ton rêve. Et il n'y a que les dieux qui peuvent le faire, mais les dieux, nous, eh bien, on ne peut pas savoir ce qu'ils pensent. Ils reconnaissent qu'ils n'y peuvent rien. » Et là, nous voyons que dans cette vision, eh bien, Daniel arrive à dire ce qu'il y a dans le rêve. La clé de la vision ne se trouve pas chez la civilisation dominante, mais chez les perdants, chez les losers, chez les Judéens qui viennent de se faire déporter. Et ce n'est pas le dieu principal des Babyloniens qui révèle la teneur de la vision de Daniel, c'est le dieu qui, en apparence, a perdu. C'est le dieu des Judéens. C'est lui qui révèle les secrets. C'est ce dieu-là qui semblait vaincu, qui a priori est plus puissant que les dieux babyloniens. Et on nous explique que dans le premier chapitre de Daniel, que Nabucodonosor, quand il a déporté une partie de la population, il est entré dans le temple de Dieu et il a cambriolé, ou en tout cas il a pris une partie des objets du temple, pour dire qu'il était victorieux de ce Dieu-là, et que donc il cambriolait le Dieu d'Israël. Cela semblait être un aveu d'échec pour le Dieu d'Israël, et là d'un seul coup, avec ce rêve, on voit que le Dieu d'Israël finalement est plus fort que les dieux babyloniens. Enfin, à la fin, on voit que Nabucodonosor reconnaît que l'Éternel est supérieur au dieu babylonien. Le véritable maître du monde, ce n'est pas Nabucodonosor. C'est pas le dieu principal des Babyloniens, c'est l'Éternel, le Dieu des Judéens, le Dieu des dieux, le seul vrai Dieu. Il est supérieur. Et du coup, vous avez vu ce que fait Nabucodonosor à la fin du récit, alors qu'au départ il voulait tuer Daniel, à la fin Nabucodonosor s'agenouille devant Daniel. Lui, le roi des rois, lui, le seigneur des hommes et des bêtes du bassin méditerranéen, lui s'agenouille devant un esclave judéen et lui offre des parfums. Il reconnaît que Daniel est supérieur parce que son Dieu est supérieur. Il met les déportés à l'honneur, Daniel et ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Et dans le chapitre 4 de Daniel, on voit que Nabucodonosor se prend une leçon supplémentaire de la part de Dieu, puisque Nabucodonosor s'enfle d'orgueil en se disant « mais je suis quelqu'un d'extraordinaire ». Et Dieu le juge et lui dit « puisque tu te crois si fort, tu vas devenir fou pendant une période ». Et pendant une période, Nabucodonosor se prend pour un bœuf. Et donc, il mange de l'herbe, il se laisse pousser les cheveux, les griffes et tout ça. Et en fait, il ne parle plus, il reste prostré pendant quelques temps. Et à la fin d'une certaine période, il recouvre la raison et il s'aperçoit que oui, c'est bien le Dieu, l'Éternel, qui est bien le Dieu des dieux et qui est supérieur à lui. Donc ça, c'est la première leçon de ce passage, un renversement entre le début et la fin de notre passage. Qui est le plus fort? C'est l'Éternel, c'est pas Nabucodonosor. Et en plus, ça rime. Le maître de l'histoire, dans ce passage, je vous l'ai dit, c'est l'Éternel, et nous allons voir la louange de Daniel, un peu plus en détail. Quelle est cette louange de Daniel? Normalement, elle devrait s'afficher. Ah non, c'est pas vrai que ça va faire ça. Bon, d'accord. On n'est pas. J'ai fait un petit problème. Alors, voici la louange que Daniel donne à l'Éternel quand l'Éternel lui révèle le rêve. Il dit « Loué soit Dieu, dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances, il renverse les rois et élève les rois, il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes, il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, le Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force. » La première leçon de ce moment de louange de Daniel, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui contrôle l'histoire, qui sait ce qui va se passer. Il n'y a qu'une seule personne qui fait et défait les empires, c'est Dieu. D'ailleurs, on sait par les prophètes Habacuc et Jérémie que Nabucodonosor est l'instrument de Dieu pour juger Juda. Dieu a révélé par ses prophètes qu'il allait envoyer du nord, donc de Babylone, quelqu'un qui allait juger son peuple qui s'était fourvoyé depuis très longtemps dans l'idolâtrie. Nabucodonosor, c'est pas parce qu'il est le plus fort qu'il a réussi à envahir Juda. C'est parce que Dieu a voulu juger son peuple qu'il a rendu Nabucodonosor fort et que lui-même a retiré sa protection sur Juda. C'est pour ça que Nabucodonosor a pu arriver à ses fins. Finalement, lui qui croyait être le plus fort, Nabucodonosor, n'est que l'instrument du Dieu des cieux. Deuxième leçon, Dieu révèle ses plans à qui il veut et à ceux qui lui demandent. Et Daniel le dit à Nabucodonosor quand il est devant lui. C'est pas parce que je suis quelqu'un de très fort que j'arrive à te révéler ton rêve. C'est parce que Dieu me l'a révélé pour que tu le saches. Moi, je suis un homme normal. Je suis un homme normal qui suis juste fidèle à l'Éternel. Et donc, l'Éternel m'a révélé ce rêve et te le révèle à toi pour que tu saches ce qui va arriver dans l'avenir. Il y avait encore un verset que j'avais oublié, mais c'est pas grave. Encore. Après la louange de Daniel, nous avons la signification de la vision, de la statue. Et peut-être que cette vision vous paraît complètement bizarre, et cette statue avec des morceaux différents. Et je vais vous expliquer cette vision. À notre époque, on arrive assez bien à savoir ce que Daniel, est-ce que Nabucodonosor a vu, et ce que Daniel a voulu dire dans l'interprétation de cette vision. Alors, le premier empire, là c'est facile, la tête d'or, le premier empire qui va régner, c'est Babylone. Donc Daniel le dit à Nabucodonosor, la tête d'or, c'est toi. Ensuite, le torse en argent, c'est l'empire perse qui va venir à diriger par des empereurs que vous connaissez peut-être, Darius, Cyrus, Artaxerxès, non, ça peut être sympa pour appeler un bébé par exemple, Artaxerxès, c'est intéressant, on remarque que personne ne porte ce nom maintenant. La taille en bronze, c'est l'empire grec avec Alexandre le Grand, qui va régner à partir de 333, qui va là encore envahir III, le Perse, et qui va donc dominer, qui va étendre son empire même jusque en Inde. Vraiment, Alexandre le Grand est un conquérant rapide et puissant, mais qui va mourir aussi rapidement qu'il a conquis son empire, et son empire va être distribué entre quatre de ses généraux. Et donc on va voir un peu plus en détail ce qui va se passer cet après-midi. Ça c'est le troisième empire. Le quatrième empire, les jambes de fer et les pieds de fer et d'argile, c'est l'empire romain, qui va commencer en 63 avant notre ère et qui va finir en 476 pour l'empire d'Occident et en 1453 pour l'empire d'Orient, l'empire byzantin. Et pour certains historiens, on est encore les héritiers nous-mêmes de l'Empire romain. L'Empire romain ne s'est pas encore terminé, même si on est passé sous un autre mode de scrutin, on va dire. Cette vision, on peut la voir maintenant, mais je vous rappelle, si cette vision, Daniel l'a eue au VIe siècle, il n'a pas pu deviner au VIe siècle qu'il y allait avoir un empire perse. À la rigueur, un empire perse, il aurait pu le deviner parce qu'il l'a lui-même vécu, mais il ne pouvait pas deviner qu'il allait y avoir un empire grec et un empire romain. Et plusieurs critiques bibliques, qui sont plutôt libéraux, qui ont plutôt tendance à croire que la Bible n'a pas du tout été inspirée par Dieu et la Bible comporte plein d'erreurs, ces critiques bibliques qui ne croient pas que les miracles puissent exister, se sont dit, c'est quand même pas possible que Daniel ait eu une vision aussi claire de l'histoire et pu deviner à l'avance ce qui allait se passer dans l'avenir. Ça veut sûrement dire que le livre de Daniel a été écrit au moins dans l'Empire grec. Pendant l'Empire grec, quand les Romains commençaient à monter, quand les Grecs commençaient à descendre, et qu'il y a un auteur qui a pu se dire, il y a eu les Babyloniens, les Perses, les Grecs, et les Romains vont sûrement venir après, et que finalement, en fait, le Daniel a été écrit super tard. Mais pour ceux qui pensent que Dieu peut révéler l'avenir, que les miracles existent, pour cela, on peut très bien penser que Daniel a eu cette vision, enfin en tout cas Nabucodonosor a réellement eu cette vision, et que Daniel a réellement interprété cette vision de manière exacte, et que Daniel a pu déjà entrevoir ce qui allait se passer au moins quatre siècles après lui, cinq siècles après lui. Quelle est la grande info de cette vision de la statue? Tous ces royaumes, malgré leur puissance temporaire, vont s'écrouler les uns après les autres. Le roi des rois, Nabucodonosor, va s'écrouler plus vite que tous les autres, d'ailleurs. La tête d'or, la tête qui a le plus de valeur, finalement, c'est celle qui va durer le moins longtemps. Les empires qui vont se succéder après, l'empire perse va durer quand même pas mal de temps, mais ils vont tous finir par s'écrouler. Seul le dernier empire va subsister. Et le dernier empire, c'est pas l'empire romain. C'est pas l'empire avec les pieds de fer et les pieds mêlés de fer et d'argile. C'est un autre empire. C'est l'empire qui est signifié par, enfin, en tout cas caractérisé par la pierre. La pierre qui roule d'une montagne. Une pierre qui n'est pas, qui ne vient pas d'un homme, donc qui vient de Dieu. Et cette pierre va faire écrouler, va pulvériser la statue. Et cette pierre va devenir une énorme montagne, va envahir toute la terre. Et cette pierre qui est un royaume subsistera éternellement. Subsistera éternellement. Quel est ce nouveau royaume ? Quel est ce nouveau royaume ? Et là, on se demande. Alors nous, on a peut-être une petite idée, je ne sais pas si vous avez une idée. Mais Daniel pouvait peut-être se demander, parce que Daniel n'a pas la solution, là, pour le coup. Hein. Il ne donne pas cette solution. Mais on sait qu'à la fin, un royaume puissant va remplacer tout cela. Alors, on a un indice dans la vision parallèle à la vision de Daniel 2, la vision de Daniel 7. Dans Daniel 7, Daniel a une vision de 4 animaux extraordinaires. Et ces animaux extraordinaires sont les équivalents des 4 parties de la statue. Et une fois qu'il a eu la vision des 4 animaux extraordinaires, il a une nouvelle vision. Il voit le trône de Dieu. Il voit le trône de Dieu. Et voici ce qu'il dit, ce qu'il voit au verset 13. Je regardais encore dans mes visions nocturnes, sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard, âgé de nombreux jours, donc le Dieu sur le trône, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toute langue lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Vision que Daniel a eue plusieurs années après la vision de Daniel 2. Et là, on s'aperçoit que ce royaume, cette pierre qui devient une montagne, dans la vision de Daniel 7, c'est un fils d'homme. Un fils d'homme qui se tient devant Dieu et à qui Dieu donne le pouvoir sur toutes les nations. Ce fils d'homme sera un roi dont la royauté ne passera jamais, dont le royaume ne sera jamais détruit. Je tue un petit peu le suspense. Ce dernier royaume, c'est le royaume de Dieu instauré par le Seigneur Jésus. Un royaume qui a l'air d'être très puissant dans Daniel 2, mais nous qui parlons au XXIe siècle, on se dit c'est bizarre, mais cette pierre qui pulvérise les royaumes qui sont avant elle, ce royaume éternel, n'a pas l'air d'être si puissant que ça dans ce monde qui ne va pas très bien. Si Jésus régnait vraiment, notre monde ne ressemblerait pas à ça. Notre Église ne ressemblerait pas à ça. Notre être intérieur ne ressemblerait pas à ça. Donc on a plusieurs choix, hein. 2 principalement. Soit Dieu est parti en vacances et reviendra un petit peu plus tard. Et jusqu'à ce qu'il revienne de vacances, le monde est livré à lui-même. Soit l'état actuel de notre monde est prévu par Dieu. Et le royaume de Dieu, le règne de Dieu, n'est pas forcément celui que nous imaginons. Lisons 2 passages du Nouveau Testament qui nous racontent un petit peu ce que ça veut dire le règne de Dieu. Dans Jean 12, versets 31 et 32, Jésus dit à ses disciples, « C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. » Le dominateur de ce monde, c'est le diable. « Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. La manière dont le royaume de Dieu s'est installé sur terre, c'est par la croix. La manière dont le diable a perdu, c'est grâce à la croix. C'est parce que sur la croix, Jésus a racheté des hommes les a réconciliés avec Dieu, les a retirés des griffes du diable. C'est comme ça que le diable a perdu, a eu une défaite décisive sur cette croix. Et quand Jésus est monté auprès de Dieu, quand il y a eu la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les chrétiens, cette bonne nouvelle s'est répandue dans tout le bassin méditerranéen, dans le monde entier. Et la bonne nouvelle s'est répandue et a sauvé un grand nombre de personnes, et ça dure encore aujourd'hui. C'est comme ça que le royaume de Dieu s'étend pour l'instant. C'est quand la bonne nouvelle de Jésus est racontée au monde et que le monde met sa foi en lui. Colossiens 2, à partir du verset 13, voici ce que dit Paul à propos de Jésus. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Paul décrit la croix comme le moment où Jésus, tel un général romain victorieux, traîne ses ennemis derrière lui, ses ennemis vaincus. Et les ennemis vaincus de Jésus, ce sont les démons, ce sont les forces du mal. Le royaume de Dieu est spirituel, il n'est pas temporel. Comment est-ce que ce royaume de Dieu se révèle-t-il? Voici dernier extrait du Nouveau Testament avec l'évangile de Matthieu au chapitre 13 à partir du verset 10. Ses disciples lui demandèrent « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour parler à la foule ?» Jésus leur répondit « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. » Vous comprenez le parallèle avec Daniel ? Daniel, à qui on révèle le secret. Dieu, dans Daniel, est appelé celui qui révèle les secrets, le maître des secrets. Et là, Jésus dit à ses disciples, « À vous, il a été révélé les secrets. » Verset 12, « Car à celui qui a, on donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Même avec Jésus et avec ses disciples, Jésus dit à ses disciples, « À certains, Dieu révèle les secrets, à d'autres non. » Et c'est tout le but, finalement, des paraboles. Verset 13, « Voilà pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. » Jésus leur raconta une autre parabole. « Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. » Il leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine, et à la fin, toute la pâte lève. Le royaume de Dieu est un royaume qui commence petitement, qui commence modestement, mais qui grossit, 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 et qui, à la fin, devient extrêmement puissant. Extrêmement puissant, si bien qu'à la fin, Jésus va l'instaurer pleinement. Nous en sommes encore aux prémices, nous en sommes encore au moment où le royaume de Dieu s'installe dans nos cœurs, s'installe dans notre Église, s'installe un petit peu en périphérie de notre Église. On a quelques brides comme ça qui sont visibles. Mais il ne se voit pas pleinement, il ne se verra qu'au moment où Jésus reviendra. Alors comment réagir face aux errements de notre monde? Je reviens à la question de départ. Bien, premièrement, je pense qu'il faut s'informer. Il faut s'informer pour analyser peut-être ce que devient notre monde. Et par exemple, si on s'informe sur ce qui se passe en Irak, pour reprendre mon exemple de départ, on peut voir de manière tout à fait rationnelle que la situation en Irak a été créée au XXe siècle par les anciennes puissances coloniales, par un découpage totalement artificiel de la part des Français et des Anglais, et que, du coup, les islamistes se servent d'une injustice flagrante qui s'est produite dans les années 50. On s'aperçoit que les guerres du Golfe menées par les Américains ont été une catastrophe qui a déséquilibré toutes les puissances locales, et que du coup, tout ce qui se passe maintenant, c'est la faute des Occidentaux. On a fait le lit des islamistes. Il suffit de s'informer, il suffit de lire des personnes intelligentes, et on sait ça. Et ça aide finalement à analyser ce qui se passe. Si on s'informe aussi, si on regarde un petit peu l'histoire, on peut voir que le XXe siècle, en Occident, est plein d'horreurs, lui aussi. Horreurs qui sont bien pires que celles qu'on voit en Irak. On a vécu plusieurs génocides au XXe siècle dans nos civilisations soi-disant civilisées, dans nos civilisations soi-disant avancées. Aujourd'hui, nous regardons les islamistes avec un air plein de dégoût en se disant « Oh là là, vraiment, ça, on revient à l'époque médiévale ». Mais n'oublions pas qu'il y a quelques années, il y a eu des millions et des millions de morts, mis à mort justement de manière industrielle par des personnes soi-disant civilisées. Deuxièmement, pour bien réagir face aux errements de notre monde, il faut bien comprendre la logique biblique. Dieu y va progressivement dans l'histoire. Je vous rappelle que même avec la vision de la statue, Dieu a attendu 400 ans pour envoyer son fils. 400 ans où il n'a plus envoyé de prophète. Plus personne pour parler en son nom. Il s'est tu, il a laissé les empires se succéder, puis il a envoyé son fils. Il attend depuis 2000 ans de le faire revenir. On marque, voici je vais bientôt, mais le bientôt est un peu à géométrie variable. Ça fait 2000 ans que Dieu attend. Dieu patiente, patiente. Et si Dieu patiente, l'apôtre Pierre nous le dit, hein, c'est pour qu'on puisse annoncer l'évangile et que tous ceux qui doivent être sauvés soient sauvés. Ensuite, on ne peut pas attendre autre chose que ce qui se passe maintenant. On ne peut pas attendre, par exemple, que le monde aille mieux par lui-même. On sait dans la logique biblique que l'homme a un vrai problème, que l'homme est pourri jusqu'à la moelle, que l'homme est profondément mauvais. Et la démonstration, depuis 2000 ans, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. On voit que l'homme est profondément mauvais, même après la venue de Jésus. L'homme a besoin de Jésus pour aller mieux. Il ne faut pas attendre des décisions politiques, des décisions militaires pour que le monde aille mieux. Il faut que nous annoncions la seigneurie de Jésus pour que certains aillent mieux. Ensuite, nous avons à prier. Prier pour que Dieu déjà nous donne du sang-froid et que Dieu nous donne le discernement pour comprendre l'histoire. Vous avez remarqué que Daniel, une fois qu'on lui dit qu'on va tuer tout le monde, il dit à ses compagnons, nous allons prier pour que Dieu nous éclaire et que Dieu nous donne de révéler la signification du rêve. Est-ce que vous priez quand vous sentez que la situation vous échappe, quand vous sentez que vous avez des émotions négatives? Quand vous dites, par exemple, il faudrait lancer une bombe atomique sur l'Irak, comme ça on effacerait tout et on recommencerait, par exemple. Quand vous avez des solutions radicales, comme ça, très intelligentes dans votre tête. Parfois, les solutions radicales, vous les avez même avec les personnes que vous connaissez. Hein. Est-ce que votre réflexe est de prier pour avoir le sang-froid nécessaire et pour que Dieu vous révèle, vous donne cet amour qui était en Jésus pour que vous réagissiez de la bonne manière? Est-ce que vous priez pour que Dieu intervienne, pour que Dieu change les choses, lui qui renverse les royaumes? N'oubliez pas, le Troisième Reich devait durer 1000 ans. Il a duré
Une petite dizaine d'années, si on compte l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il a duré que 10 ans. La plupart des grands royaumes qui ont prétendu être les royaumes les plus merveilleux du monde, qui allaient durer tout le temps, n'ont pas duré. Dieu peut faire les choses, alors prions-le. Enfin, il faut réagir avec sagesse. Et ça consiste à comprendre que l'homme est mauvais, que malgré les apparences, nous, qui sommes les disciples de Jésus, nous sommes dans le bon camp, et que c'est pas la peine de s'agiter, c'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine de râler, c'est pas la peine de vouloir régler les choses par nous-mêmes. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. C'est ce que disait Isa en tout début de culte. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, nous avons à combattre des puissances spirituelles. Alors, si nous voulons réagir avec sagesse, nous devons combattre spirituellement. Êtes-vous prêt à combattre spirituellement? Êtes-vous prêt à faire avancer une fois de plus le royaume de Dieu? C'est la question que je vous pose. Je vous invite à chanter pour conclure cette prière.